France Culture.
Réplique. Qu'est-ce qu'être français avec Belinda Cannon et Jean-Paul Demoule. Essayiste et romancière, Belinda Cannon publie « Venir d'une mère », le récit émaillé de digressions de sa nuit au Mucem de Marseille. L'historien de la préhistoire, Jean-Paul Demoule, est l'auteur de « La France éternelle », une enquête archéologique. Leur itinéraire, leur sensibilité, leurs références ne sont pas les mêmes. Mais ce que mes deux invités ont en commun, c'est le souci de la France. Pour en savoir plus sur la nature de ce souci, je leur demanderai de réagir à Renan. Celui-ci, dans sa célèbre conférence, dit que la nation est un héritage de gloire et de regrets à partager. Est-ce cela pour vous la France? Partagez-vous, en tant que Français, un héritage de gloire et de regrets? Belinda Cannon.
Oui, certainement, un héritage de gloire, puisque cet héritage de gloire, je le vois surtout du côté de la culture française, on y reviendra sans doute, de tout ce qu'elle porte, transporte, d'idéaux, de valeurs, etc., dans lesquelles je me reconnais, de regrets, bien sûr, parce qu'il y a des moments historiques de la France, des moments de l'histoire de France qui, évidemment, ne me font pas plaisir et ne me conviennent pas, mais également de regrets, peut-être aujourd'hui particulièrement, je commence à regretter beaucoup l'état de la France et l'état de ses valeurs, justement, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que on aurait fait cette émission il y a 5 ans, j'aurais peut-être pas eu autant de regrets qu'aujourd'hui.
Mais donc, vous vous sentez complètement une héritière. Ça, vous acceptez le terme?
Je l'accepte absolument, oui.
Et vous, Jean-Paul Demoule?
Oui, ça dépend effectivement à quand on va faire remonter la France. Comme je dis dans le livre, le sentiment national et même d'État-nation, ça ne remonte pas avant le XVIIIe siècle et la Révolution. Donc moi, je me sens plutôt notamment héritier de la Révolution, enfin, des révolutions et des républiques, tout à fait. J'ai certainement une fierté.
C'est intéressant, vous dites le sentiment national est assez récent, mais je voudrais vous citer ici à tous deux le très beau livre que Mona Ozouf a consacré à Jules Ferry, fondateur de l'école républicaine, par laquelle nous sommes tous les droits passés, je pense. Oui. Bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il était l'ennemi déclaré, Ferry, le républicain, de l'illusion révolutionnaire de la table rase, de la création d'un monde refait à neuf. Il ne voulait surtout pas qu'on enseigne aux enfants qu'avant 89, il n'y avait que des tristesses, des misères, des hontes, des regrets, en quelque sorte. Il voulait que les petits Français héritent de leur histoire tout entière. Voilà. Il voulait en faire des héritiers. Donc, pour Jules Ferry, l'héritage était bien antérieur à la Révolution française, antérieur au XVIIIe siècle. Il pensait donc que cette nation devait s'inscrire dans la longue durée.
Oui, bien sûr, parce que
Jean-Paul Demoule,
la Troisième République invente le roman national. C'est seulement depuis la Troisième République que nos ancêtres sont les Gaulois, puisque les rois de France y descendaient d'un nommé Francion, un prince rescapé et inventé de la guerre de Troie, et les aristocrates y descendaient des conquérants francs. À tel point que l'abbé Sieyès, pendant la Révolution, dans son discours « Qu'est-ce que le tiers-État ?» dit « Eh bien, puisqu'ils prétendent venir des étangs et des forêts de Germanie, eh bien qu'ils y retournent. » Et d'ailleurs, ils y sont retournés, mais ils sont venus en 1815. Parce que cette histoire de France est compliquée, parce que si on commence avec les Gaulois, on n'a que la vision des vainqueurs qui les décrivent comme des brutes, qui en plus ne se rasaient pas, ce qui choquait beaucoup les Romains, mais ensuite les Romains vont être vaincus par les Francs, ce qui n'est pas très bien, et les Francs, ils vont être vaincus culturellement, puisque nous sommes en train de parler français, mais comme vous savez, c'est une langue romane, c'est pas le francique, que parlaient les Francs. La Troisième République, elle naît d'une défaite, d'une nouvelle défaite qui fait miroir, finalement, celle d'Alésia. Et en même temps, elle est en train de construire, et notamment Jules Ferry, un nouvel empire colonial, dans lequel elle explique que, ben, de même que les Romains nous ont civilisés, hein, c'est écrit dans le Petit Lavis, dans tous les manuels d'histoire pour les écoliers de l'époque, de même, nous sommes en train de civiliser les « sauvages », entre guillemets, des autres continents. Donc c'est à ce moment-là que effectivement se construit ce roman, parce que la République qui se veut une et indivisible, ce qui veut dire que ça n'allait pas de soi, eh bien elle va construire ce roman, et Jules Ferry est tout à fait représentatif de cette époque.
En tout cas, moi, en tant qu'ancien élève de l'école républicaine, je n'ai jamais appris nos ancêtres les Gaulois, j'ai appris à travers les versions latines plutôt nos ancêtres les Romains. C'est à travers le latin que je me suis constitué. Mais que pensez-vous, de cette idée de roman national, Belinda Cannon?
Vous savez, un écrivain, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des choses impures, c'est-à-dire en réalité juste complexes. Et évidemment, le roman national tel qu'il est construit par le 19e siècle, hein, vous le montrez très bien dans votre livre, au fond ne m'intéresse pas et ne correspond pas entièrement, en tout cas, à ce que je pense de ce pays et de cette culture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la culture française, si bien que, moi-même, je sois me sens très héritière des Lumières, mais je suis obligée de remonter, au fond, jusqu'au XVIe siècle pour avoir un panorama de ce que c'est que la culture et la littérature française, ce que c'est que la philosophie française, et c'est ça qui m'intéresse. Alors, évidemment, tout à l'heure, je parlais des regrets, bien sûr, je pensais notamment aux époques de colonisation. Je regrette fort les colonisations françaises, etc. Mais je me sens héritière, en revanche, de ce que c'est que la culture française. Et là, je suis obligée de remonter à la Renaissance, quasiment. Et ça, c'est vraiment ma culture, et je l'assume. Et Ferry avait raison de dire, au fond, il dit aussi, prenons tout, y compris ce qui est mauvais, ce qui est impur, mais qui constitue la France.
Mais est-ce qu'il ne faut pas remonter un peu plus haut encore que la Renaissance? Je suis très sensible à ce que vous dites, puisque c'est à la Renaissance qu'on a montré Kundera que la religion, pour fonder l'unité européenne, a cédé la place à la culture. Et l'unité européenne, c'est le maximum de diversité dans le minimum d'espace. Donc, c'est la culture, mais disséminée dans les différentes nations européennes. Mais là, je dis, pourquoi remonter plus haut? Là, je voudrais vous interroger tous les deux. Une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de mal à parler d'identité nationale aujourd'hui, c'est à cause de la Révolution nationale. On dit, voilà, ça c'était le grand traumatisme. Donc il faut surmonter la nation. C'est d'ailleurs le but de l'Union européenne, hein. Remplacer les identités par les normes, le droit et le marché.
Ce que dit déjà Renan. Il dit, ça n'a qu'un temps, et ta nation, la Fédération européenne, la remplacera sans doute un jour.
Mais que se passe-t-il le 17 juin 1940? Le jour même où le maréchal Pétain fait don de sa personne à la France. Edmond Michelet, à Brive, glisse dans les boîtes à lettres le premier tract de la résistance. Et c'est un texte de Peggy. Celui qui défend la France est toujours celui qui défend le royaume de France. Celui qui ne rend pas une place, peut-être tout républicain qu'il voudra et tout laïc qu'il voudra, j'accorde même qu'il soit libre penseur, il n'en sera pas moins petit cousin de Jeanne d'Arc. Et il y a cette phrase extraordinaire de Peggy. La République une et indivisible, notre royaume de France. Il faut quand même, justement, penser, accepter cette continuité. Et sans doute aujourd'hui, notamment en référence à ce qu'a été véritablement la résistance, aller jusqu'au bout de la vérité de cet héritage. Jean-Paul de Moule.
C'est effectivement un débat de savoir à partir de quand commence la France. Effectivement, elle commence dans la mesure où une des marques d'identité les plus fortes, c'est la langue. Comme le disait Belinda Cannon, ça commence vraiment à la Renaissance. Parce que quand on évoque les sermons de Strasbourg au 9e siècle ou les chansons de Roland, si vous les lisez, vous ne comprenez rien. Et encore même, François Villon, juste avant la Renaissance, ou Rabelais, ou Montaigne, s'ils ne sont pas modernisés, c'est pas ça ne va pas de soi. On pourrait parler aussi de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui est en général très mal interprétée, puisque le texte dit, en 1539, sous François Ier, qu'on ne fait plus les actes juridiques en latin, parce que plus personne ne comprend le latin, sauf les prêtres et les universitaires, puisque les thèses se font en latin jusqu'au début du XXe siècle. Donc on le fait en langage maternel français. Ce qui est surinterprété en disant « maintenant, c'est le français partout ». Or, l'abbé Grégoire, sous la Révolution, qui fait une enquête, montre qu'il y a seulement 10% des Français qui parlent le français standard. Et la génération qui est en train de disparaître, dans plusieurs régions de France, n'avait pas le français comme langue maternelle. Et quand cette ordonnance est reprise par Charles IX, il est dit « en français ou maternel ». C'est-à-dire que ce que dit en fait l'ordonnance de 1539, c'est qu'on le fait en langage maternel français, qui n'est pas seulement le patois d'Île-de-France, mais qui peut être toutes sortes d'autres langues.
Si vous permettez, je pense que ce que disait Alain Finkielkraut, enfin, ce sur quoi il mettait le doigt, c'est plutôt sur la construction du récit national. Oui. Et je crois que vous-même avez montré dans votre très beau livre que, précisément, il y a une espèce d'opération de construction du récit national au XIXe siècle.
Oui.
Donc moi, je remontais à la Renaissance parce qu'au fond, c'est le moment d'élaboration d'une philosophie, d'une version de l'individu qui m'intéresse et desquels on est encore les héritiers. Parce que voilà, ça me paraît plus sûr, en tout cas pour définir notre identité, que ce récit national un peu traficoté à chaque époque, et notamment au XIXe siècle.
Et surtout, comme j'essaie de le montrer, c'est que la France, qui se construit au Moyen-Âge, mais sous la monarchie absolue aussi, est une sorte d'État colonial. Elle part du domaine royal assez restreint, centré sur l'Île-de-France et la Touraine, et par conquête militaire vers le sud, vers la Franche-Comté, Lorraine, Alsace, par achat comme la Corse, par échange comme Nice et la Savoie, ou par mariage comme en Bretagne, ça va se constituer. Mais d'une certaine façon, c'est un État colonial, sans parler évidemment des...
Colonial, vous allez fort quand même. Pourquoi colonial ?
Parce que c'est par conquête.
Oui, d'accord, mais enfin, c'est devenu, comme dit Peggy, notre royaume de France. Et tous les Français, grâce à la langue, s'y sont reconnus. Justement, d'ailleurs, je voudrais qu'on parle de la langue. Parce qu'elle occupe une place très importante dans votre livre, Belinda Cannon. Votre attachement à la langue française, vous le répétez. Et pour en rester à l'épisode le plus noir de notre histoire récente, c'est-à-dire la guerre, Vichy, je voudrais vous citer Lévinas. C'est tout à fait extraordinaire. C'est le sol de cette langue, dit Lévinas, qui est pour moi le seul français, vous comprenez. Je parle très bien le russe encore, assez bien l'allemand et l'hébreu. Je lis l'anglais, mais j'ai souvent pensé, au début de la guerre de 1939, que l'on fait la guerre pour défendre le français. Cela a l'air d'une boutade, mais je le pensais sérieusement. C'est dans cette langue que je sens les sucs du sol. J'ai l'impression que vous pourriez reprendre cette formule à votre compte, Belinda Cannon.
Absolument, parce que ce que j'ai essayé de raconter donc dans ce livre, Venir d'une mère, c'est ce sentiment qui dépasse absolument ma conscience et tout travail intellectuel, ce sentiment d'être migrante. Pour des raisons donc familiales, ma famille n'a cessé de traverser la Méditerranée pendant un siècle, donc d'où est-ce que je viens ? D'aucune terre, mais d'une mère. Ça me donne ce sentiment d'être migrante. Mais je dis aussi, qui est un sentiment affectif, c'est une émotion quasiment. Mais je dis aussi entièrement migrante, parfaitement française. Pourquoi ? Parce que je suis née avec et dans la langue française. Je suis dans cette musique de la langue française, dans cette philosophie qui accompagne la langue française, dans cette culture. Et je dis souvent, chaque fois qu'on m'a demandé « d'où venez-vous ? » On me trouvait un peu trop brune pour être tout à fait d'ici. Je disais souvent « je suis ma langue » en un seul mot. Parce que c'est ça mon identité profonde. Ce que j'habite profondément et qui me traverse et qui me constitue, c'est la langue française. Et j'ai la chance d'avoir été élevée à l'école, il y a un petit moment maintenant, un moment où l'école nous apprenait cette langue française et nous en faisait goûter la musique, nous en faisait goûter la logique et les articulations. Et ça, c'est ce qui me constitue véritablement et qui constitue mon identité, qui est un mot un peu compliqué à utiliser, mais en tout cas, mon identité, elle est là. Elle est dans cette langue-là. Et je crois que les gens qui adhèrent à la France, qui se sentent français comme je me sens française, c'est d'abord, en effet, une adhésion à la langue française.
Alors, diriez-vous la même chose, Jean-Paul de Moule ? Parlerez-vous de la langue en ces termes ? Diriez-vous qu'elle vous constitue ?
Je suis arrière-petit-fils d'institutrice, fils de professeur de lycée en lettres classiques. Donc, j'ai toujours vécu dans la langue et c'est pour ça, effectivement, que j'écris. C'est à peu près la seule chose que je sache faire, à part faire des trous dans la terre. Donc, effectivement, on est...
Ah, vous savez le faire, des trous dans la terre ?
Oui, c'est mon métier, archéologue.
Ah ben oui, c'est vrai, je suis bête. Je pensais que vous étiez aussi un peu fermier. Non,
non, pas du tout.
Vous êtes archéologue.
Non,
bien sûr.
Voilà. Et donc, effectivement, la langue est quelque chose de tout à fait important pour moi, sachant que, comme je disais tout à l'heure, cette langue n'est vraiment le français que depuis la Renaissance. 5 siècles, c'est pas beaucoup.
Oui, mais avant la Renaissance, il y a eu aussi Villon, qui compte parmi les grands poètes de notre patrimoine, et sans doute et d'autres aussi, mais quand même, je m'arrête à la langue, parce que vous dites, Belinda Cannon, vous avez la chance aussi que la langue vous soit enseignée dans toute sa profondeur, sa logique, sa beauté. Et peut-être vous demandez-vous si c'est le cas encore aujourd'hui. Vous citez dans « Venir d'une mère » ces vers extraordinaires de Bérénice. « Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. » Ça, c'est déjà complètement la France.
C'est merveilleux.
C'est merveilleux.
Une musique merveilleuse.
Mais pourquoi je le cite, ce vers ? Parce que dans son dernier séminaire, la préparation du roman, Barthes commente longuement une phrase de Flaubert dans sa correspondance. « J'écris non pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui pourront se présenter tant que la langue vivra. » Et un peu plus haut, « tant que la langue vivra. » Donc la langue est mortelle. Donc la langue est mortelle. Et un peu plus haut, vous avez cette phrase, « si Racine passe un jour, c'est déjà plus ou moins fait, ce n'est pas parce que sa description de la passion est ou sera périmée, mais parce que sa langue sera aussi morte que le latin pour l'Église conciliaire. » Donc, il y a quelque chose, il y a une inquiétude, il y a une fragilité, malgré tout, de cet héritage, et notamment de la langue française aujourd'hui. Belinda Cannon.
Oui, tout à fait, et c'est pour ça que je prends la peine régulièrement de rappeler que notre héritage, c'est cette langue telle qu'elle est constituée. Moi, je me sens... Alors, c'est un peu ridicule de dire ça. Je me sens contemporaine de Racine. Et je refuse de penser que c'est un auteur ancien. Bien entendu, là, comme le dit Barthes, que la façon de décrire la passion, ça n'est plus exactement celle que nous vivons, celle que nous avons aujourd'hui. Mais la musique de la langue à laquelle j'ai été formée, parce que c'est vrai qu'à l'école, moi, j'apprenais des passages entiers de Racine et de Corneille, et ça formait mon oreille. Et ça formait ce que j'appelle mon sentiment de la langue. Et je me sens parfaitement contemporaine de cette langue, en tout cas.
Et vous, vous sentez contemporain de Racine ? Parce que vous avez des mots très ironiques sur l'Académie française, je ne vous en veux pas, mais notamment sur ces gardiens de la langue, oui. Sur la pureté, sur l'idée qu'il y aurait une pureté de la langue dont vous constatez, avec un certain sourire, pas seulement amusé, même un sourire de satisfaction, l'évolution permanente. Jean-Paul de Moule.
Oui, une langue est en perpétuelle évolution, sinon nous serions toujours en train de parler latin. Mais déjà, il y avait le bas latin, et puis ça donnait des intermédiaires, justement, comme les serments de Strasbourg, la complainte de Sainte-Eulalie, et même... Ce qu'on lit de Racine, ça se prononçait pas tout à fait de la même façon. On roulait plus les airs, on disait ouais et pas ouais. Donc ça évolue en permanence ça ne me dérange pas.
Oui, Belinda Cannon. Bien entendu, je ne voulais pas dire que Racine était un modèle. ça serait absurde, et en tant qu'écrivain, je serais ridicule, d'ailleurs. Évidemment, moi-même, je travaille et j'œuvre, j'espère, à renouveler la langue, à la transformer, et à tenir compte de cette transformation naturelle, je dirais, de la langue. En effet, les langues, c'est des organismes vivants qui évoluent. Peut-être que la nouveauté aujourd'hui, c'est d'essayer d'infléchir la langue de façon volontaire, pour des raisons idéologiques, la plupart du temps, c'est-à-dire de la transformer en fonction d'une idéologie. Ça, ça peut pas coller. Parce que justement, la langue, quand je dis que je me sens française, c'est notre trésor commun. Et donc, on s'en sert avec soin, enfin, on fait attention, on prend soin d'elle, et on essaye de la transformer dans la pratique, dans sa parole. Mais on touche pas aux structures de la langue, ou en tout cas, ça doit se faire naturellement, je dirais. Parce qu'en effet, les langues évoluent.
L'idéologie, par exemple, pour vous, ce serait l'écriture inclusive, non?
Mais oui, par exemple.
Par exemple. Oui, c'est vrai. Mais vous dites, l'un et l'autre, la langue évolue. D'accord. C'est un organisme vivant, d'accord. Mais ce qui est vivant peut mourir. L'évolution peut prendre une tournure extrêmement négative. C'est ce que dit Barthes. La langue peut s'effondrer. Et c'est pas une question de pureté. C'est une question de structure. C'est une question de beauté. Et là, Jean-Paul de Moule, vous, justement, vous en prenez aux scrupuleux tenants de l'inamovible pureté de la langue. Et vous citez, provocateur que vous êtes...
Merci.
Aya Nakamura. Mmh.
Qui est la chanteuse française la plus écoutée à l'étranger.
Oui, et elle a joué un rôle important dans la cérémonie des
la
Jeux
cérémonie.
Olympiques.
Oui, tout à fait.
Et je m'en souviens très bien. Je vais lire deux textes, si ça vous gêne pas. Aya Nakamura, le début de l'un de ses tubes, Jaja. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des belles atroces sur moi, à ce qui paraît je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça le monde? Et type, ça veut dire petit, j'imagine. Tu croyais quoi qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh Jaja, y a pas moyen de Jaja, je suis pas ta catin Jaja, genre en Kachana Babi. Tu dettes ça au Jaja. Voilà. Donc vous citez ça, ça vous amuse.
Elle sera...
C'est pas la pureté de la langue. Mais imaginez que je sois professeur de français. Oui. Je l'ai été. Pureté de la langue n'est pas mon problème. J'ai ces vers de Aya Nakamura que tout le monde écoute. Et j'ai aussi ces vers que personne ne lit de Paul-Jean Toulet. Ce n'est pas drôle de mourir et d'aimer tant de choses. La nuit bleue et les matins roses. Les fruits lents à mûrir, ni que tournent en fumée, maintes choses jadis aimées, tant de sources tarir. Ô France, et vous, Île-de-France, fleurs de pourpre, fruits d'or, l'été lorsque tout dort, pas léger dans le corridor. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de dire que Paul-Jean Toulet, c'est infiniment plus beau, plus riche que Jaja? Est-ce que j'ai le droit de le dire, ou est-ce qu'au nom de l'évolution, du mouvement perpétuel de la langue, ces jugements de valeur sont interdits, et si on doit nager dans le relativisme, qu'est-ce qu'enseigner la littérature et la langue française? Belinda Cannon.
Je ne crois pas que j'oublie son nom, mais la chanteuse en question.
Nakamura.
Oui, représente un nouvel état de la langue. D'abord, nous ne comprenons rien. Aucun de nous trois, et la plupart des Français, je pense, ne comprennent pas quand ils l'entendent chanter. Et quand vous dites que c'est la chanteuse la plus écoutée dans le monde, je vous répondrai que oui, forcément, comme ils ne comprennent pas les paroles, ce qui plaît à l'étranger, c'est peut-être autre chose que le texte. Donc le problème, c'est... En fait, le vrai problème, moi, elle ne me dérange pas, cette chanteuse. Le vrai problème, c'est... Est-ce que nous pouvons toujours partager la langue? Si la langue devient une sorte d'idiolecte qui n'est compris que par une toute petite proportion des Français, bon ben tant mieux que ça existe, hein, ça ne me dérange pas. Mais dans tous les cas, il me semble intéressant de continuer à enseigner la langue française avec ses structures. Et vous savez, en tant qu'écrivain, on est très sensible au fait, évidemment, d'être lu, de pouvoir être lu. Et au fond, c'est pour ça aussi que je suis... Il y a différentes raisons pour lesquelles je suis contre l'écriture inclusive, mais c'est aussi que essayer d'écrire en écriture inclusive, vous fabriquez du texte illisible. Or, moi, je veux être lu. Donc, c'est toujours la question de est-ce qu'on peut partager la langue ou pas? Et après, qu'il y ait des réalisations poétiques, disons que c'est cela qu'il y a chez cette chanteuse, pourquoi pas ? Je vous dirai pas why not, mais je le pense.
Il y a toujours effectivement des façons de parler qui peuvent être propres à un groupe particulier. Il y a toujours eu l'argot, jadis l'argot parisien, maintenant l'argot des banlieues, et Nakamura c'est en partie cet argot. Donc moi ça ne me dérange pas. Je cite également un peu plus tard le langage des affaires qui est de la Startup Nation,
mais oui.
Complètement contaminé, on ne comprend pas. Moi, en tant que pauvre intellectuel, je ne comprends rien de ce que disent mes camarades qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi.
Mais oui, d'ailleurs, vous citez une liste non exhaustive de termes globiches, mais on a le droit d'en penser quelque chose, on a le droit d'être révolté, non, Jean-Paul de Moule ? Pourquoi, justement, cette équanimité devant une situation qu'on peut considérer comme grave ? Je vous citerai Sûrement. La langue française est en plein déclin. Et ce qui m'attriste plus, c'est que les Français n'ont pas l'air d'en souffrir. Et c'est moi, rebut des Balkans, qui me désole de l'avoir sombré. Eh bien, je coulerai inconsolable avec elle. Est-ce qu'il a tort de parler de déclin ?
Moi, d'abord, je suis historien, donc je constate, ça m'intéresse tout autant d'étudier la société actuelle que les sociétés anciennes. Mais j'ai un collègue historien, Gerfagnon, qui a publié un livre qui s'appelle « C'était mieux avant ». Et donc, ça commence avec Hésiode, 8e siècle avant, qui dit « Je n'ai plus aucun espoir pour le pays, la jeunesse, etc. » Platon, 4e siècle, Chateaubriand, début 19e. Donc, ça me paraît assez normal de penser toujours que tout va à volo, surtout quand on se rapproche de la fin, et on préférait quand on était jeune, et moi le premier. Donc,
c'est ce que vous répondriez à Suran.
Oui, c'est ce que je dirais.
À ce rebut des Balkans.
Voilà, et je connais très bien.
Et Suran traînait aussi à Lévinas. Parce que si la langue évolue, pourquoi se battre pour la défendre ?
Oui, je connais très bien.
Il y a plein à la défendre.
Je connais très bien les Balkans. J'ai beaucoup travaillé en tant qu'archéologue et j'en parle quelques langues. Mais que la langue évolue, on évolue. On est apparu qu'il y a 300 000 ans. C'est seulement il y a 40 000 ans qu'on s'est mis à dessiner dans les grottes. Donc on évolue et les espèces biologiques ne durent que quelques dizaines de millions d'années.
Vous savez, on a parlé tout à l'heure, on parlait de cette liste. En effet, vous donnez des listes de mots qui sont en train d'évoluer et qui s'anglicisent, notamment. Des tas de mots anglais remplacent les termes français. Franchement, ça ne me gêne pas, ça. Je veux dire, la modification du vocabulaire, que les mots soient remplacés par des mots anglais, c'est pas ça qui me fait peur, au fond. Moi, c'est quand on s'attaque à la structure de la langue, à la structure de la phrase. Et là, ça devient plus ennuyeux, parce que nous pouvons partager des mots qui se sont transformés. C'est dommage de perdre l'usage de la langue dans sa complexité, dans sa richesse. Récemment, on me disait que le Club des Cinq, vous savez,
Il
n'y a plus de passé simple, et les phrases sont réduites. J'ai lu des exemples, j'ai confronté les deux textes. On a simplifié et l'histoire et la langue. Ça, c'est vraiment dommage. Et c'est pas le vocabulaire là qui est en cause. C'est vraiment les structures de la langue, une structure de langue, une structure de phrase. C'est une chose complexe. C'est dommage de la simplifier parce qu'on simplifie l'esprit aussi.
Oui, puis on le voit quand même dans la langue parlée tous les jours. Super, sympa, ces mots qu'on emploie tout le temps. Ils éliminent mille nuances. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Vous dites, vous êtes historien, Jean-Paul de Moule, mais on a l'impression que, en tant qu'historien, vous jugez avec une certaine ironie tous les jugements. C'est comme si on n'a pas le droit de juger. Mais pourquoi ?
J'aime bien l'ironie en général. Chacun ses défauts. Mais c'est vrai que je m'oblige des fois toujours à employer encore le passé simple, mais j'ai renoncé avec le plus que parfait du subjonctif, qui était quand même aussi très beau. Il faut retenir aussi que ça dépend des groupes sociaux. Il y a des groupes sociaux qui, effectivement, nous, au hasard, qui avons une langue beaucoup plus riche, alors qu'on sait que les milieux les plus défavorisés ne manient que quelques centaines de mots.
La langue des groupes sociaux les plus riches n'est pas forcément elle-même plus riche. On le voit avec, justement, la pénétration du globish, et on peut dire que le rôle de l'école de Jules Ferry, c'est de faire de tous, d'où qu'ils viennent, des héritiers, et notamment des héritiers de la langue française.
Vous voulez juste citer
Jean-Paul Demoulin.
Votre confrère Éric Orsenna, qui avec le linguiste Cerchilini a écrit ce petit livre, Les mots immigrés, et justement il montre toute la couche successive des mots qui sont venus d'ailleurs, même si Belinda Cannon insistait plus sur la syntaxe, mais effectivement, et il supposait même que la chef d'un mouvement d'extrême droite voulait prendre la parole, et à ce moment-là tous les mots immigrés s'en allaient, donc elle ne pouvait plus dire grand-chose.
Mais bien, bon, alors c'est intéressant parce que je m'arrête à ça, ces mots immigrés. L'immigration tient une grande place dans votre livre, Jean-Paul Demoule. Vous vous dites à plusieurs reprises migrante, Belinda Cannon. Et moi je pourrais en faire autant, mes parents sont des immigrés. Moi je suis naturalisé français à l'âge d'un an, mais je pourrais me réclamer... de la tradition migratoire du juif éternel, pour parler encore comme les visages, je ne le fais pas, parce que je ne suis pas autosuffisant, je suis de quelque part, je suis français que je veuille ou non, et en plus je le veux. Mais surtout, c'est comme si, par la migration, on savait se montrer hospitalier. C'est ça, voilà. Si nous rappelons que l'immigration a joué un gros rôle en France, si nous disons que tous les mots sont immigrés, ça veut dire que nous souvrons ouvrir nos portes aux autres. Mais ouvrir ses portes, être hospitalier, ça a été longtemps donner quelque chose à quelqu'un, et pas simplement lui dire qu'on est à peu près personne ou un grand mélange, et lui permettre d'être ce qu'il est. À quoi ça sert de se revendiquer à ce point de la migration, Belinda Cannon ?
Écoutez, comme je le raconte dans ce livre, ça n'est pas une décision intellectuelle de me revendiquer cette migration. C'est plutôt un constat que j'ai fait au cours de ma vie. Tout à coup, par des réactions émotionnelles à des films, à des livres, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose en moi qui était ce que j'appelle une sensibilité de migrante et que je vérifie encore aujourd'hui. Mais vous voyez aussi que dans ce livre, je ne cesse de faire l'éloge de cette culture française dans laquelle je suis tout entière. C'est ça le paradoxe. Ça veut dire quoi être migrant ? Ça veut dire avoir en effet une certaine sensibilité et une certaine ouverture à l'autre, un sentiment d'instabilité qui donne parfois un sentiment d'imposture, mais qui donne aussi un sentiment de liberté très, très puissant. Ça veut dire que je n'ai aucun aïeul enterré dans un endroit qui serait le mien, que mes aïeux ne font aucune guerre qui soit celle de ce pays. Mais ça ne fait rien. Je suis française au sens où je suis un écrivain français. J'ai enseigné longtemps la littérature, pas seulement française, mais cette littérature-là. Donc, je crois que être de quelque part, c'est avant tout être d'une langue et d'une culture. Et je regrette, justement, le problème aujourd'hui de la migration, c'est qu'on n'arrive pas plus, pour des tas de raisons que on ne peut pas évoquer ici, on n'arrive plus à transmettre ce que moi et ma chance, ce que j'appelle être une chance, c'est-à-dire transmettre cette culture et cette langue de façon à habiter pleinement ce pays, comme je l'habite.
Et Jean-Paul Demoule, pourquoi cette importance donnée tout au long de votre livre à la migration ? Comme si c'était finalement ce qui définissait l'identité française. Jean-Paul Demoule.
Je suis un descendant d'immigrés, mais de l'intérieur. C'était les maçons creusois qui montaient à la capitale, construire le Paris haussmannien. Sinon, effectivement, j'ai fait l'archéologie de ma famille à travers des recherches généalogiques. Mes ancêtres ont vécu sur l'actuel territoire français depuis au moins la fin du XVIIe siècle. Mais j'insiste effectivement sur ces questions de migration. J'avais publié un peu avant un livre qui s'appelait « Homo migrans, une histoire globale des migrations », parce que justement cette idée d'une France éternelle ne me paraît pas conforme à tout ce que l'archéologie et les histoires montrent, et qu'il y a sans arrêt eu des apports de populations. Les sapiens sont remplacés, les néandertaliens, les inventeurs de l'agriculture venus du Proche-Orient ont assimilé les chasseurs recueilleurs descendants de Lascaux. Les Romains nous ont grand remplacés sur le plan culturel. On connaît l'arrivée des Francs puisque nous sommes Français, etc., etc. Et avec 19e et 20e siècle, multiplication à la fois les réfugiés politiques, arméniens, juifs, etc., et la révolution industrielle qui va attirer les Italiens, etc. Et sachant que ils n'ont jamais été, et ils n'ont pas toujours été accueillis avec des cris de joie. Il y a eu des massacres d'ouvriers italiens dans le sud de la France à la fin du 19e siècle. Donc c'est pour ça que, comme la langue évolue, les populations évoluent, et on est tous les trois bien placés pour le dire, effectivement, ce qui fait qu'on est français, c'est cette longue histoire.
C'est cette longue histoire. Il n'empêche qu'entre les grandes invasions et le deuxième tiers du 19e siècle, la France a été plutôt un pays homogène. Il y avait des migrations intérieures, mais il n'y a pas une grande immigration. Elle a commencé justement dans les dernières décennies du 19e siècle. Et puis, donc, je dis simplement, moi, qu'il faut se garder de remplacer le roman national par la fable du brassage perpétuel, afin d'être plus hospitalier. Et puis surtout, là c'est une question que... Avant de poser cette question, je voudrais vous citer l'historien Dominique Borne, qui dit « Nous ne sommes pas tous des Gaulois, et pour permettre justement aux enfants d'immigrer de se reconnaître dans une France métissée dès l'origine, son récit commence avec la fondation par les Grecs de Massalia, Marseille, au 5e siècle avant notre ère. Ville métissée par excellence. » Et là, je me suis dit, est-ce la raison pour laquelle, alors que vous avez souhaité aller passer une nuit au musée de l'immigration, vous avez choisi le Mucem de Marseille, justement, à cause de ce caractère métissé de cette ville, Belinda Cannon?
En effet, au départ, j'avais pensé aller au musée de l'immigration, passer ma nuit, et là, en y allant, en revoyant ce merveilleux bâtiment, je me suis vraiment aperçu qu'il s'agissait de la colonisation, et qu'il s'agissait de l'Afrique et de l'Asie, etc. Aucun rapport avec mon histoire. Or, moi, je voulais visiter ces origines méditerranéennes qui étaient les miennes, et donc j'ai choisi le Mucem, musée donc des civilisations européennes et méditerranéennes, parce que ça me paraissait le cadre propice. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé Marseille où j'ai grandi, parce que c'était une ville très cosmopolite. Et à une époque d'ailleurs où, je ne sais plus si c'est vraiment le cas, où les Marseillais, où toutes les Marseillais de toutes origines confondues disaient qu'ils étaient d'abord Marseillais avant d'être tout autre chose, quoi que ce soit d'autre. Donc c'était un contexte, disons, oui, qui me plaisait beaucoup. Et puis, encore une fois, c'était la Méditerranée qui me retenait. Ce que je voulais explorer, c'était l'origine méditerranéenne. Donc j'ai préféré aller là. Et puis je dois vous dire que j'aime énormément ce bâtiment, que je trouve un chef-d'œuvre de l'architecture. Et donc ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir l'explorer toute une nuit.
Et Jean-Paul de Gaulle.
Oui, le Mucem, c'est quelque chose qui est tout à fait emblématique du rapport compliqué de la France ou des Français avec le passé. Parce que dans tous les pays du monde, il y a un grand musée d'ethnologie. Et en France, il faudra attendre très longtemps, notamment de par cette diversité justement des coutumes régionales, des langues régionales. Il faudrait attendre les années 1970, 74-75 pour que soit fondé le musée des arts et traditions populaires, avec une très belle muséographie due à Georges-Henri Rivière. Mais à peine ce musée fondé, eh bien, petit à petit, il tombe en désuétude. On s'intéresse pas à lui.
Il n'avait pas de visiteurs. Ce musée, c'est pour ça qu'il a fermé. C'est pas une décision de quiconque. C'est que personne n'allait voir cela.
Et donc, on l'a transféré au Mucem, qui, je vous rejoins complètement en tant que fréquentant Marseille souvent, un très beau bâtiment, mais beaucoup trop petit pour les collections permanentes qui étaient extrêmement riches du musée des arts et traditions populaires, qui a été cédé à l'homme d'affaires Bernard Arnault. Donc, il y a de très belles expositions temporaires. J'ai participé à l'une d'entre elles, justement, sur les déchets, etc. Mais toute la grande richesse, justement, de tout ce qui est l'ethnologie des différentes régions de la France, et bien tout ça est en caisse.
Oui, mais il n'y a pas non plus de musée d'histoire de France quand...
C'est Nicolas... un autre symptôme, oui.
Oui, enfin, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, Vincent Duclerc, l'historien Vincent Duclerc, a dit qu'il faudrait établir un musée d'histoire en France. La France comme pur réceptacle, mais certainement pas la France comme continuité. Or, disait Simone Veil, la continuité dans le temps est le bien le plus précieux de l'homme.
Oui, mais, parce que ce qui est tout à fait représentatif de la France, c'est que dans toutes les capitales du monde, il y a un grand musée d'archéologie et d'histoire. Nous, on en a un, il s'appelle le Louvre, mais il n'y a que des objets qui viennent de l'Orient, la Grèce et Rome, parce que c'est ça, les racines culturelles que se donnaient les élites. Pour voir ce qui a été trouvé sur le sol français, il faut aller à Saint-Germain-en-Laye, où il n'y a aucune, très peu de public et pas d'argent du tout. Aucun président de la République a voulu en faire son grand projet présidentiel. La directrice du Louvre s'est plainte récemment qu'il lui manquait 600 millions, on lui a fait un chèque, personne n'a pensé au musée d'archéologie nationale. Donc il y a une espèce comme ça de rapport schizophrénique entre les élites et le passé. Il a fallu attendre les années 80, par exemple, pour qu'il y ait un service archéologique qui s'occupe de préserver les sites archéologiques face aux grands travaux.
Mais vous parlez l'un et l'autre des migrations, mais la question que je me pose, justement, pour savoir ce qu'il en est de la France aujourd'hui, c'est l'immigration a-t-elle changé ? A-t-elle changé de nature ? A-t-elle changé quantitativement ? 500 000 nouveaux arrivants l'année dernière. Vous récusez le terme de submersion migratoire, Jean-Paul de Moule. Peut-être n'est-il pas juste, mais c'est quand même un changement quantitatif très important. Et puis, il y a un changement de nature. Le secrétaire général du collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous, disait « Personne n'a le droit de définir pour nous ce qu'est l'identité française ». Mais les immigrés de Pologne, d'Italie, d'Europe centrale n'ont jamais dit ça. Kundera est venu en France parce que c'était le pays de Diderot. C'est pas lui qui allait défendre l'identité française. Et on a panthéonisé le 9 octobre Robert Badinter. Alors, voici ce qu'écrivait sa femme en 2012, Elisabeth Badinter. Une seconde société tente de s'imposer insidieusement au sein de notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession. Le tout avec notre complicité active ou passive. Et Robert Badinter lui-même, peu de temps avant sa mort, effaré par la montée de l'antisémitisme, qui n'avait rien à voir avec la droite identitaire, il faut se tenir prêt à partir à temps. Donc, il y a quelque chose qui arrive à la France et que nous devons quand même prendre en compte, Belinda Cannon.
Écoutez, moi, si vous permettez que je ne me prononce pas sur la submersion migratoire, je dirais que justement, il y a dans la culture française, pourquoi je la revendique et je la chante au fond, il y a dans la culture française, dans la tradition philosophique française, cette vocation d'abord d'hospitalité, parce que c'est une culture universaliste, parce que c'est une culture laïque, et que donc elle est susceptible, elle est capable normalement d'accueillir justement ceux qui viennent d'ailleurs. Et au fond, c'est ça que j'essaye de dire dans ce livre. Je viens d'ailleurs, je suis née ailleurs, je suis née en Tunisie, ma famille venait d'ailleurs, mon père a été naturalisé français quand j'avais 10 ans, donc vraiment j'ai le sentiment de venir d'ailleurs, mais j'ai senti immédiatement que ce pays, enfin, que cette culture pouvait m'accueillir, moi, comme elle peut accueillir tout le monde, pour peu qu'on souscrive à un certain nombre de valeurs, comme, par exemple, l'universalisme ou la laïcité. Et donc, c'est en ce sens que je défends, enfin, que j'essaie de tenir cette position entre le sentiment d'être entièrement migrante, mais parfaitement française, parce que c'est une culture hospitalière, pour peu qu'on puisse, qu'on veuille, qu'on puisse, hein, parce que peut-être aussi un défaut de notre école et de notre pays à former à cette culture de liberté et d'universalité.
Jean-Paul Demeaux. Pour parler de la situation contemporaine, je sors de mon domaine de compétences, donc je m'appuie sur les travaux de gens crédibles comme François Héran, qui a la chaire des migrations au Collège de France et qui est donc mieux placé que moi pour en parler. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, on a parqué les populations les plus pauvres, donc étrangères, dans des ghettos urbains, laissés un peu à l'abandon. Donc effectivement, ces sentiments de repli identitaire plus ou moins opportun, mais c'est aussi, je pense que la crise des migrants, c'est aussi une crise de l'accueil, une crise de l'intégration, parce que le nombre d'immigrés, même si vous citez des chiffres importants, il est plutôt plus faible en France que dans d'autres pays européens, mais là je n'ai pas les moyens d'en dire tellement plus.
Oui, vous n'avez pas le moyen d'en dire tellement plus, mais quand même, la mentalité a changé. Hospitalité, accueil, on donne quelque chose. Et là, j'ai sous les yeux un rapport qui a été soumis par Thierry Thiot, aujourd'hui d'ailleurs conseiller d'État, en 2013, à Jean-Marc Ayrault, qui était alors Premier ministre. Et ce qui est très intéressant, c'est l'épigraphe, c'est Novalis. Et plus que tous, l'étranger, superbe aux yeux profonds, à la démarche légère, aux lèvres mi-closes, toutes frémissantes de chant. Et il s'en prend à une France repliée sur la célébration de ses archaïsmes. Et il dit, l'intégration mène des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi. C'est très intéressant, c'est-à-dire il ne veut plus de l'intégration, il veut une société inclusive, qui s'ouvre à l'autre quel qu'il est, qui célèbre l'étranger. Alors, qu'est-ce que dans ces conditions, on peut transmettre ? Est-ce qu'on peut transmettre ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, justement, à souligner aujourd'hui que le fait que certaines populations sont parquées dans des ghettos urbains, etc. Il faut rappeler aussi que dans Seine-Saint-Denis, tous les Juifs sont partis. Ils sont partis parce que, et même Édouard Philippe, ancien ministre, Premier ministre, parlait d'alien intérieur. Donc il se passe quelque chose, il se passe une division, et peut-être aussi, du côté de la France, un refus de transmettre. Et est-ce qu'il ne faut pas redonner le sens de cette transmission, Bélinda Cannon ?
Oui, bien sûr, et je crois que là, le problème est encore plus général, c'est-à-dire que on a changé d'objectif à l'école. L'école s'est transformée. Et ça, franchement, moi, j'ai enseigné donc la littérature à l'université. Je voyais bien comment, qui étaient les étudiants, qui étaient là, et comment c'était eux qui allaient devenir les enseignants de l'école et du collège. Je vois bien les objectifs ont été transformés dans le sens d'une simplification. C'est ce que je disais tout à l'heure pour les livres pour enfants, simplification de la langue, simplification des apports, etc., simplification de l'éducation de l'esprit. Et donc, forcément, on est en difficulté maintenant. Mais il y a un travail à faire sur l'école et ce qu'on enseigne. Et peut-être qu'il faut se redonner des objectifs plus glorieux que niveler par le bas pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pas vrai. Quand on dit qu'on veut que tout le monde comprenne, on condamne ceux dont les conditions familiales, la vie, etc., ne sont pas assez bonnes pour accéder à une culture plus large et plus riche et penser par eux-mêmes, etc.
C'est-à-dire,
c'est un effet de la démocratisation de l'enseignement, puisque jadis les lycées étaient réservés à une petite élite. On a obtenu le collège unique, etc., mais on s'est pas donné les moyens. Tout le monde, de même que pour l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire, eh bien effectivement, il y a un travail de fond, éradiquer les langues régionales, apprendre le français et apprendre à lire et à écrire. Eh bien, quand on a fait, à partir des années 60-70, cette démocratisation, collège unique, etc., on ne s'est pas du tout donné les moyens de faire que tout le monde ait effectivement la même culture. Donc on a même un séparatisme, on parle des séparatismes religieux, mais il y a un séparatisme des classes favorisées qui mettent leurs enfants uniquement dans les écoles privées, qui concerne 20% de la population et la plus favorisée.
Oui, bien sûr, mais d'un autre côté, si on assiste à un nivellement par le bas dans les écoles, au nom d'une certaine idée de l'égalité, les familles les plus favorisées sont obligées, en effet, de mettre leurs enfants dans des écoles privées où l'enseignement est plus exigeant. Que peuvent-elles faire d'autre si l'enseignement public renonce à sa mission principale, Jean-Paul Demoule?
Mais je pense que c'est pas la faute des enseignants, même si vous et moi, nous étions enseignants. C'est effectivement qu'on ne s'est pas donné les moyens d'avoir un renforcement scolaire suffisant pour accompagner l'ensemble des enfants, ceux des classes défavorisées, dont les parents ne parlaient pas français ou très mal, etc. C'est à la mode de dire que c'est de la faute des enseignants, du coup ils sont très mal payés.
Moi je dis pas ça, hein. Moi, je dis, c'est la faute d'un système éducatif global.
Oui.
Les enseignants, ils font ce qu'ils peuvent faire.
Oui, c'est ce que je
dis. Ça vraiment, mais c'est la faute d'un système éducatif qui a pensé qu'il fallait niveler pour rendre la culture... compréhensible par tous, alors qu'en fait on a baissé le niveau, et donc les premiers qui payent le prix de cela, ce sont les enfants des classes populaires, des classes non privilégiées.
Alors vous êtes en charge de l'éducation nationale, Belinda Cannon, vous faites apprendre Bérénice en quelle classe?
Écoutez, moi, je crois que je l'ai appris en troisième, quatrième, dans le collège.
Au collège, déjà?
Oui.
Mais je me souviens, moi, qu'on avait une pièce de Corneille, de Molière et une pièce de Racine tous les ans.
Donc, parce qu'on suit la chronologie, on commence au Moyen-Âge, et puis, effectivement, on arrive à l'âge classique un peu plus tard.
Mais vous ne diriez pas, Jean-Paul Demoule, qu'une pièce des Trois Grands tous les ans, c'était pas mal? Et donc, c'était mieux avant, non? C'est le dernier mot.
C'était mieux avant, provisoirement, mais ça pourrait être beaucoup mieux, puisque je suis résolument optimiste.
Bon, très bien. C'est formidable de terminer sur une note d'optimisme. Alors, je voudrais maintenant citer vos deux livres. Belinda Cannon, Venir d'une mère, dans la collection Ma nuit au musée, chez Stock. Et Jean-Paul Demoule, La France éternelle, une enquête archéologique aux éditions La Fabrique. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Hervé Dubreuil. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le Monde de Philippe Roth. Mes invités seront Astrid von Busekist et Marc Weitzmann. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.